les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Un sujet grave aujourd'hui pour notre dossier. Holocaust a remporté 8 Emmy Awards en 1978, qui récompensèrent notamment le scénario, Gerald Green, la réalisation, Marvin Chomsky, et trois acteurs, Meryl Streep, Blanche Baker et Michael Moriarty. Sur la page consacrée à Marvin Chomsky du site imdb.com, on peut lire que le jour où il a reçu son troisième Emmy Awards, le réalisateur a souligné qu'il les avait gagnés en montrant des événements qui n'auraient jamais dû arriver, la Shoah, la révolte de la prison Attica et la montée du nazisme en Allemagne. Le sujet de cette émission est dans l'air du temps, Sarah, commémoration oblige, mais ce sujet est de toute façon gravé dans la mémoire collective européenne.
Effectivement, bonjour à tous. Holocaust, donc, la série met en scène les événements bien connus et malheureusement connus de la Seconde Guerre mondiale. Elle pose une question que pas mal de gens ne cessent de ramener dans le débat. Une fiction peut-elle traiter de la Shoah? Et surtout, moi je me pose cette question, peut-elle le faire en faisant l'unanimité? Et j'ai l'impression que non. Pour la petite histoire, c'est une série qui a été diffusée sur NBC fin des années 70 et que donc ça ne date pas d'hier non plus. Alors la fiction présente la destinée d'une famille juive, les Weiss, qui vivent en Allemagne, à Berlin, et d'une famille allemande, les Dorf. Tout le destin de Dorf qui est en fait au départ un jeune avocat qui est au chômage et qui sera engagé comme SS et qui donc va participer à tout ce côté déportation. Il faut savoir qu'au départ il est juste un sous-fifre, mais qu'il a des talents terminologiques et qu'il va pouvoir conseiller ses supérieurs sur les termes politiquement corrects à utiliser. Il ne parle pas de ghetto, par exemple, il parle de territoire autonome, juif. C'est lui, je pense, qui invente dans la fiction, en tout cas, le terme solution finale. Et donc, il va monter dans la hiérarchie. Il terminera, dans les derniers épisodes, à donner des conseils sur la meilleure manière de tuer en masse les juifs. Donc vous voyez que lui aussi en suit son évolution et par rapport notamment à sa femme qui est très ambitieuse et qui ne voit dans la position de son mari que le moyen d'avoir le pain blanc et non pas le pain gris, de participer aux fêtes à Berlin et de ne pas avoir des rations de nourriture trop étroites. Donc vous voyez qu'on a aussi quelque chose de ce niveau-là. Maintenant, il est vrai que les vrais héros de cette série, ce sont les membres de la famille Weiss. Alors Joseph Weiss est un docteur à Berlin, marié à Bertha, ils ont trois enfants, Karl, Rudi et Anna. Karl est de surcroît marié avec une Allemande qui s'appelle Inga, et donc on a aussi le problème des mariages mixtes de l'époque. La série débute d'ailleurs sur leur mariage, et un des cousins de la mariée fait remarquer au papa de la mariée qu'il aurait peut-être dû attendre un peu, parce que bientôt, ces mariages seront interdits et qu'ils vont probablement avoir des ennuis. Donc on est avant la guerre, on est dans les années 30, qui n'ont pas non plus été très très drôles à vivre pour les Allemands. On s'imagine très bien ce que cette série raconte, les années 30 et les années de guerre. Les Weiss seront donc séparés, déportés, blessés, torturés, voire tués par les Allemands, et ils vont participer malgré eux aux grands événements de la guerre, comme la nuit de cristal à Berlin, le massacre de Babi Yar, où on a tué plus de 30 000 juifs, c'était je pense en Pologne ou en Ukraine, le ghetto de Varsovie, le soulèvement du camp de Sobibor et Auschwitz. C'est donc une série qui ne parle pas de choses vraiment très très gaies. On en parle souvent aussi pour ses acteurs principaux qui sont depuis devenus de vraies vedettes, et notamment Meryl Streep qui joue le rôle d'Inga, donc la femme de Karl.
Toute jeune à l'époque.
Toute jeune à l'époque et toute fraîche. Évidemment, on la connaît, nous, pour Adaptation, La mort vous voici bien, Out of Africa ou Kramer contre Kramer. Et elle est aussi celle qui, du casting, est parmi ceux qui ont le plus d'activité à l'heure actuelle, puisque dans les autres acteurs, il y en a qui sont morts, par exemple. Puisqu'elle a, en ce moment, deux fictions en phase de post-production et trois en pré-production. Donc elle a encore pas mal d'activités. Récemment, et au niveau des séries, on a pu la voir dans Angels in America, un tout autre registre. James Wood est aussi un personnage important. Il a joué le rôle du père, et un rôle difficile d'ailleurs, du père dans le film de Sofia Coppola, Virgin Suicide, si vous vous souvenez. Il était aussi du casting de Casino, ou La vie de Charlie Chaplin, plus anecdotiques, Stuart Little 2 ou Scary Movie 2. Il a lui aussi, et on le connaît peut-être moins, un passé dans les séries télé, figurez-vous, qu'il a joué dans Le Jeune Maverick, Barnaby Jones, Les Rues de San Francisco ou Kojak. Ça me fait sourire, mais bon, soit. Les autres sont moins connus, même si Fritz Weaver, qui joue le docteur Joseph Weiss, a joué dans pas mal de séries, comme par exemple Aux Frontières du Réel. Son visage n'est pas tout à fait inconnu, ou Star Trek, ou La Loi de Los Angeles. Mais à part ça, c'est vrai que ce sont des acteurs qu'on ne connaît pas nécessairement ou qu'on ne connaît plus, à savoir. Sauf peut-être Rosemary Harris, qui joue la maman, Weiss, Bertha Weiss. Elle est May Parker dans l'adaptation actuelle de Spider-Man au cinéma. Donc c'est la tante de Spider-Man, en gros. On a par exemple aussi, mais ça c'est juste pour l'anecdote, Joseph Bottoms, qui jouait Rudy Weiss, donc un des enfants, qui est apparu dans VIP, cette fabuleuse série avec Pamela Anderson. Profiler aussi, par exemple. On a Michael Moriarty, qui jouait donc le SS. Eric Dorff, qui a joué dans Cagney et Lacey. Vraiment anecdotique, ou la quatrième dimension. Je vous propose d'aller voir sur le site pour le reste, parce que la liste des acteurs qui ont participé à cette série est un peu longue.
Il faut dire que c'est pas réellement une série comme les autres, c'est plus une mini-série de prestige.
Ouais, c'est
avec
un feuilleton.
Évidemment un casting qui va avec.
Énorme. Le créateur, c'est Marvin Jichomsky, qui s'est fait la main sur des séries connues comme Les Mystères de l'Ouest, Star Trek ou Mission Impossible, Hawaii Police d'État, Gunsmoke, donc qui venait pas de n'importe où. Il s'est plutôt, dans ses œuvres à lui, attaqué au registre historique. Donc Holocaust n'est pas la seule, il a aussi travaillé par exemple sur le FBI, sur le Ku Klux Klan, sur, et tu l'as dit, la révolte de la prison d'Attica en Russie, ou l'image de Robert Kennedy. Donc ça c'est vraiment son cheval de bataille, ce sont les séries historiques, et d'ailleurs c'est pour elles qu'il a généralement reçu ses récompenses. Plus connu probablement, il a réalisé Les Ailes du Destin pour Josie Abram des John Falci. Donc là aussi c'est pas une série facile, puisque ça raconte la vie d'une famille dans le sud et des problèmes qu'il y a pu y avoir avec les Noirs à l'époque, dans les années 60. Alors quelques petites anecdotes peut-être sur cette série, même si elles sont pas particulièrement marrantes, mais c'est intéressant pour voir comment cette série a été perçue dans la société à l'époque. Quand elle a été diffusée en Allemagne, donc fin des années 70, les commissariats ont été inondés de gens qui venaient se dénoncer de faits qu'ils avaient commis durant la nuit de cristal, et il y avait prescription, évidemment. D'ailleurs, le terme Holocaust n'existait pas en allemand, et c'est depuis cette mini-série que le terme existe. Donc vous voyez un peu l'impact que ça a pu avoir. En France, les auteurs de L'Aventure de la télévision, un ouvrage que je cite souvent, disent que la polémique n'a pas porté sur la fiction en tant que telle, mais sur les lancements, qui apparemment étaient de très très mauvais goût. Mais il souligne que les Français l'ont aimé à 61%. Et j'y reviendrai probablement.
Vos routes ont une très grande importance pour nous. Comme toutes nos précautions sanitaires, nos mesures contre la contagion. L'épidémie s'étend à Auschwitz. Tu parles chez ceux qui gardent les prisonniers, je suppose. Ils souffrent d'un mal qui leur ronge le cerveau. Ou l'âme. Vous jouez davantage encore. Quel est le mot? Les vertueuses outragées qu'autrefois. Tout ce que nous faisons depuis toujours est nécessaire. Arrête! Garde tes mensonges pour les juifs que tu fais massacrer. Vous leur mentez jusqu'à la dernière minute. Pourquoi vous les obligez à se déshabiller entièrement? Mais nom de Dieu, vous ne pouvez même pas les laisser mourir dans la dignité. J'ai vu tes SS faire des plaisanteries sur ces pauvres femmes nues. Ce sont des criminels et des ennemis. Et si nous les faisons se déshabiller entièrement, c'est simplement pour une question d'hygiène. J'ai entendu que les juifs du ghetto de Varsovie avaient osé se révolter. Ces pauvres gens malingres, affamés, désarmés, osent défier la race supérieure. Ça me redonnerait presque confiance dans la divine providence.
Une fiction a-t-elle le droit de parler de la Shoah? Et le débat est partout, surtout que pour le moment, on n'arrête pas de... 60e anniversaire oblige de parler de ce genre de choses. Les Inrecuptibles posaient d'ailleurs la question en opposant les soirées de France 3 et d'Arte du 24 janvier, puisque l'une des chaînes passait Holocaust et l'autre passait le documentaire de Claude Lanzmann, Shoah. Évidemment, c'est deux choses tout à fait différentes. Les Inrecuptibles demandaient, peut-on représenter l'anéantissement d'un peuple quand toutes les traces de ce crime ont été effacées? Peut-on représenter la Shoah? Et le magazine a d'ailleurs des mots très très durs au sujet de la série. Ils sonnent assez justes d'ailleurs, malheureusement. Ils disent que le feuilleton représente une version assez édulcorée, notamment des camps qui ressemblent, et ça c'est eux qui le disent, à des clubs de vacances un peu pourris plutôt qu'à des usines de mort. Ils disent aussi qu'en mêlant des personnages de fiction et des personnages réels, la série finalement tente à faire de la Shoah un simple accessoire et que toutes les étapes de la Shoah ne sont toutes nivelées au même niveau, que ça soit la nuit de cristal ou la solution finale. Et que ça nuit finalement à l'appréhension qu'on pourrait avoir de l'événement. La critique fait mouche, effectivement, surtout quand on regarde un documentaire comme celui de Claude Lanzmann, qui lui se voulait une alternative, si pas carrément une dénonciation de cette mise en image, puisque lui part du principe qu'il y a un certain absolu d'horreur qui est intransmissible, et que faire de la fiction, c'est transgresser une règle. On ne peut pas, il dit, on ne peut pas faire de la fiction. Et effectivement, qui dit fiction dit nécessité de résumer et d'élaguer, mais qu'est-ce qu'on choisit finalement dans ce qu'on va montrer ? Tout est horrible dans la Shoah. Et puis en plus de ça, on peut se poser aussi une autre question. Est-ce qu'une fiction exhaustive est une bonne fiction ? Et on ne peut pas répondre pour un événement pareil, à mon avis. Et puis on peut aussi poser une autre question, et c'est Jacques Rivette qui la posait par rapport au film qui traite de la Shoah. Il dénonçait certains travelling, par exemple artistiques. Il disait on ne peut pas faire des trucs jolis par rapport à la Shoah. Or, l'idée même de cinéma, c'est de faire des trucs jolis. Donc c'est très très compliqué. Moi je rajoute une autre critique par rapport à cette série, c'est qui dit mise en intrigue dit personnage accrocheur. Et pour accrocher, généralement on utilise le sentiment et le premier dont on pense c'est l'amour. Et donc pour montrer que leur destin est horrible, cette série montre qu'on perd son amour. Donc on perd les êtres chers, la femme, la petite amie qu'on vient de se faire, les enfants, etc. Maintenant, moi, je pose la question, est-ce que l'amour explique tout ? Et surtout, l'horreur absolue ne peut-elle pas passer par autre chose ? Ne peut-elle pas être absolue en elle-même ? Et donc, on n'a pas besoin nécessairement de sentiments humains à côté pour la faire passer, d'autant que beaucoup de survivants disent que les sentiments humains n'ont plus cours dans les camps de la Shoah. Donc, quelque part, ça trahit un petit peu ça. On joue aussi sur d'autres sentiments qui sont la haine, notamment la haine des nazis. Et le personnage de Dorf, par plusieurs endroits, suscite l'horreur, et notamment par les propos qu'il tient, qui sont vraiment, vraiment à faire froid dans le dos. D'un autre côté, on le montre aussi qui doute et qui pleure à un moment. Et effectivement, comment peut-on, dans une fiction sur la Shoah, montrer des nazis qui ont un caractère un peu humain ? Enfin, c'est très, très compliqué. Et alors, une autre critique que je fais, c'est le fait que les membres de la famille Weiss sont ceux à qui il arrive tout. C'est-à-dire, ce sont eux qui sont là au mauvais endroit, au mauvais moment, mais tout le temps. Ce sont eux aussi qui sont les héros de la résistance, ils vont à Auschwitz, etc. Et on n'en a aucun d'entre eux, finalement, qui est faible, qui a peur, qui pleure ou qui est collabo. Or, il y a des choses comme ça qui ont existé. Donc, on a aussi l'impression, quelque part, que c'est un peu édulcoré. Certains,
On a quand même l'une des filles qui craque et ouais. qui se fait violer, puis se fait interner et puis qui est
oui.
gazée.
Et tu vois, c'est de nouveau un moyen de montrer un événement historique. On a aussi décimé les personnes handicapées ou les personnes mentalement faibles. Et donc, c'est une manière aussi de montrer ça. Mmh. Donc, tous les personnages deviennent des espèces de surreprésentations d'un événement.
Mais c'est la seule touche de faiblesse qu'on peut trouver à cette famille. C'est la crise de la plus jeune des filles qui, du jour au lendemain, veut sortir et veut arrêter d'être cloîtrée dans son appartement.
Ouais. Et ils n'ont aussi aucun des doutes. Et pourtant, certains survivants d'Auschwitz ont dit, vous savez, les médecins Auschwitz ne faisaient pas l'asphaltage des routes comme le docteur Weiss le fait, mais ils étaient obligés de participer aux expériences médicales qui n'étaient pas des plus jolies non plus. Ça aurait été peut-être un moyen de montrer un personnage qui doutait, qui était amené à faire des choses qu'il n'aimait pas. Or, ils ont édulcoré cette partie-là aussi. Peut-être que c'était pas non plus l'époque ou le moment d'en parler, je n'en sais rien.
Il ne faut pas oublier que c'était quand même la première fiction qui parlait de ce sujet, mais ça, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure.
Oui. Alors, il faut savoir que le débat et que la question ne portent que sur ce qui est fiction audiovisuelle, télé et film. Parce que la littérature, qui pourtant revient aussi sur la Shoah, n'a jamais été critiquée autant... même si elle le met en fiction. Les auteurs du site internet Film et Culture prennent la défense de certains films pour dire que certains films parviennent malgré tout à retranscrire quelque chose d'intéressant. Et pour Holocaust, quelle est la différence finalement entre la télévision et la littérature ? C'est l'image. Et les Inrecuptibles disaient, on nous montre des camps qui sont des camps de vacances et pas des camps de concentration, mais ça pose aussi la question de l'image et c'est aussi un problème. Est-ce qu'une reconstitution n'est bonne que quand on nous montre réellement ce qui s'est passé ? Peut-on d'ailleurs réellement montrer ce qui s'est passé ? Jusqu'où va-t-on dans le voyeurisme ? Jusqu'où est-ce que c'est acceptable ? Et ça, c'est un débat qui est difficile aussi. Et puis, finalement, une fiction sur la Shoah est-elle bonne que si elle nous expose la laideur des cadavres ? Ou alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un degré métaphorique quelque part qui soit tout aussi juste ? C'est vraiment difficile.
Elle ne sort plus là. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici.
Pardon, ma femme et Madame Lowy sont parties travailler.
J'y suis pour rien, moi. J'obéis aux ordres, comme tout le monde ici.
Les monstres. Les monstres. Pourquoi on les laisse faire ce qu'ils veulent ? Pourquoi ? Pourquoi jamais personne ?
n'a encore osé leur dire non.
Tu l'as dit, Holocaust, c'est une des premières séries qui a mis en scène ces événements de la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, le site internet d'Arte fait un point sur les fictions et la Shoah. Et Daniel Anker, qui en a signé le texte, nous rappelle qu'en fait, ça ne date pas d'hier, que déjà dans les années 30, le cinéma s'était emparé des nazis, avec notamment le dictateur de Charlie Chaplin. Ici, d'ailleurs, quelques films très célèbres qui ont abordé le sujet, comme par exemple Le journal d'Anne Frank de George Stevens, Prêteur sur gage de Sidney Lumet ou La liste Schindler, évidemment très connue, de Steven Spielberg. Mais le thème est évidemment beaucoup, beaucoup plus rare à la télévision. Le même document, donc sur le site internet d'Arte, évoque une série que je connais absolument pas et ne donne absolument aucune information, d'une série télévisée qui porterait sur le procès Nuremberg d'Abiman dans ses années précédant Holocaust, mais j'en sais pas plus. Alors on l'a oublié, peut-être à raison, mais Stalag 13 de Feldman reprend aussi finalement la vie dans les camps nazis. Là, ce sont des prisonniers de guerre dans un camp allemand qui continuent à mener en interne leur guerre contre le régime nazi. Ils disposent d'ailleurs d'un matériel dernier cri, ils peuvent communiquer tout à fait facilement avec leurs collègues alliés. Ils sortent même du camp d'ailleurs quand ça leur chante. Il faut dire qu'effectivement, face aux hommes de Hogan, Klink et Schultz, le sergent le plus connu, ne font pas le poids. La série laisse pas un souvenir vraiment impérissable dans les mémoires, mais moi je l'aime bien pour une raison, c'est que c'est une comédie et que ce n'est pas le cas le plus courant. Maintenant, Holocaust est donc fait partie du lot, c'est la première à s'attarder aux Juifs, parce que Hogan c'est bien, mais ce sont les Américains. C'est aussi la première à visiter les camps sous le mode du drame. Et Daniel Anker allait même plus loin, toujours sur le site d'Arte, il dit que la série télévisée américaine Holocaust reste le film qui aura fait connaître les horreurs de la Shoah au plus grand nombre de personnes. D'ailleurs, il y a eu plusieurs numéros spéciaux dans la presse et dans un de ces numéros spéciaux, David Susskind disait qu'il a fallu attendre 1961 et le procès d'Adolf Eichmann pour que l'opinion européenne prenne conscience de l'ampleur de l'extermination. Il disait d'ailleurs que les Juifs qui rentraient des camps ne trouvaient généralement personne à qui parler parce qu'on ne voulait plus en parler, on voulait passer à autre chose et qu'on ne les écoutait pas. Et Georges Champrin dit la même chose, donc un écrivain qui a été à Buchenwald, il dit que lui-même il lui a fallu 15 ans pour en parler et qu'il s'est rendu compte que malgré qu'on en avait parlé durant les années 60, par exemple, et les suivantes, il y a seulement 10 ans qu'il s'est rendu compte que certains juifs commençaient à parler lors du 50e anniversaire. Et donc, on peut comprendre que finalement, avoir une fiction sur la Shoah dans la fin des années 70, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, puisque ça n'était pas dans les mœurs d'en parler de manière tout aussi ouverte que ce qu'on ne le fait maintenant.
Clairement, c'était peut-être pas le but des producteurs, mais c'était quand même briser un tabou.
Ah oui, tout à fait. Oui, je pense que ça brise un tabou, effectivement. Alors maintenant, il y a la manière dont on brise le tabou. C'est vrai que ça peut paraître un peu mièvre et un peu mélodramatique. D'un autre côté, cette année-là sort Dallas aussi, et Dallas, par certains aspects, n'est pas beaucoup moins mièvre qu'Holocaust. Faut aussi se remettre dans le contexte, la télévision de ces années-là ne parle pas des Noirs, parce que les Jeffersons, qui est une série américaine centrée sur des Noirs, fait carrément horreur. Les femmes sont toujours au foyer, à part les drôles de dames, et les gros mots sont toujours interdits des dialogues, sauf dans Starsky Hutch. Donc vous voyez, on est quand même encore pas à la préhistoire, mais presque. Et en plus, il ne faut pas oublier que c'est un network qui diffuse Holocaust. On n'est pas encore à l'époque de HBO, c'est NBC qui le fait. Donc on peut comprendre aussi certains manquements de cette série. D'un autre côté, il ne faut pas aussi oublier qu'il aura fallu attendre au-delà des années 90 pour qu'une fiction nous montre l'étalement de boucherie. Il a fallu attendre « Il faut sauver le soldat Ryan » et encore à l'époque, qui n'est pas si lointaine que ça, il y a quand même pas mal de gens qui se sont offusqués de ce côté très voyeuriste. Maintenant, pour comprendre aussi le poids de cette série, je reciterai encore l'aventure des pionniers de la télévision, puisqu'ils ont repris un sondage qui avait été fait aux États-Unis et qui montrait que 3 personnes sur 5 ont mieux compris les persécutions nazies après avoir vu cette série-là. Il faut savoir que la diffusion a été suivie au dernier épisode d'un débat auquel participait Simone Veil qui avait été déportée, qui s'est terminé vers 1h du matin et qui avait encore 38% de téléspectateurs à l'époque. C'est énorme en fait. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui voudraient un peu approfondir le sujet, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur le site Mémorial de la Shoah en un seul mot.fr qui reprend la liste qui est non exhaustive des films et des feuilletons qui a abordé le sujet, parce qu'il y en a encore plein d'autres. Il y a La vie est belle, par exemple, de Benigni. Et il y a aussi un livre écrit par Catherine Dana qui revient justement sur ce rôle de la fiction dans la commémoration de la Shoah et qui s'appelle Fiction pour mémoire. Et donc voilà, mon propos c'est juste de dire cette série effectivement elle a des manquements, cette série n'est pas parfaite, cette série est vieille, mais elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'avoir fait peut-être le premier pas. Alors maintenant, toutes les critiques qu'on entend sur cette série sont très bien et très justes, je reviens pas là-dessus, mais il faut aussi remettre les choses en contexte. Et dans le contexte des années 70, Holocaust est une série qui a été très importante.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.